Vous écoutez l'Ambition au féminin épisode 162 et aujourd'hui, on reçoit Émilie de Carufel avec qui on va parler de chaos, de créativité et d'innovation.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que je vous trouve en bonne forme. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue où on va parler d'un sujet qui est probablement mon sujet de l'année. J'ai l'impression que tout ce que je fais en ce moment me ramène vers cette réflexion. Et c'est une réflexion autour du chaos. Et dans les dernières années, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé avec le concept du chaos parce qu'il est très, très proche de la créativité, il est très, très proche de la réalité entrepreneuriale et dans toutes mes réflexions autour de qu'est-ce que c'est une entreprise autopoétique, une entreprise qui s'autorégule, une entreprise qui vise la durabilité, bien, la notion de chaos est vraiment importante parce que bien, elle fait partie de notre expérience humaine, de notre expérience entrepreneuriale, elle fait partie même de notre expérience organique, hein, comme corps humain, comme être vivant dans un univers qu'on comprend très peu, hein, en rétrospective. Et pour pas être trop métaphysique, là, quand on ramène ça à l'entreprise, ben, tu sais, c'est sûr que parce qu'on est limité dans notre connaissance du futur, on est limité même dans notre connaissance par rapport à tout un tas de décisions qu'on doit prendre, on doit apprendre à naviguer le chaos. Et une des places où on doit justement travailler avec ça, le structurer, c'est dans tout ce qui est de l'ordre de l'innovation, de l'ordre de la tech, de l'ordre de n'importe quel système ou effort de trouver des solutions. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui avec mon invitée, Émilie de Carufel, qui, justement, c'est une personne, selon moi, comment je la connais et comment je la vois, qui est très habile avec cette notion de chaos et à aider les équipes, souvent en entreprise, les startups, etc., à naviguer ce chaos pour en faire ressortir de la richesse. Donc, qui est Émilie de Carufel? Ben, c'est une personne qui a comme passion de concrétiser les idées folles. Elle aime résoudre des problèmes complexes avec des solutions créatives, simples, funky et concrètes, le tout dans un processus itératif et full collaboratif, bien sûr. Et Émilie dit qu'elle ne sait plus combien de fois les gens sont venus la voir pour lui dire « Émilie, j'ai une idée folle, t'en penses quoi? » Et 92% du temps, elle dit « Cool, essaie ça au plus vite. » Donc, elle a passé 25 ans dans des rôles de gestionnaire de projet, Scrum Master et de gestionnaire en transformation, hein, des projets funky, impossibles et réalisés. Elle en a une tonne derrière la cravate. C'est quelqu'un qui ose faire les choses différemment pour obtenir des résultats différents. C'est exactement l'interlocutrice que j'avais besoin pour parler d'innovation, de créativité et surtout de la place du chaos pour venir chercher nos plus belles et nos plus efficaces idées. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec cette entrevue avec Émilie. Hello, hello, Émilie! Comment vas-tu? Bienvenue sur l'Ambition féminin.
Ça va bien, toi? Merci de m'avoir invitée.
Oui, ça va super bien. On s'est parlé il n'y a pas longtemps et puis je me disais, ah, ça va être tellement intéressant de se parler plus longuement sur le podcast, dans cette entrevue. Je donne tout le temps un petit contexte de comment, pourquoi je t'ai invitée. En fait, je ne sais pas, je pense que je t'avais vu passer. Je te vois souvent passer sur LinkedIn. Et là, j'avais vu particulièrement un post où tu partageais une vidéo que tu avais mise sur ta chaîne YouTube. Okay. Et j'ai regardé ta vidéo et j'étais crampée.
Yes! J'ai atteint mon but!
Puis, tu sais, c'était comme toi qui créais le chaos dans une salle de réunion, dans un événement. Et toi qui commentais ta création de chaos. En tout cas, on va mettre le lien, genre, naturellement, de cette vidéo dans les notes pour celles qui veulent regarder. Mais j'étais comme, c'est tellement bon. Puis en même temps, c'était tellement low-tech, dans le sens, ta vidéo était pas super léchée, montée, whatever. Tu sais, c'était vraiment...
Ouais.
C'était vraiment naturel, puis j'avais vraiment aimé comme le message sous-jacent qui passait de ça, parce que je suis beaucoup en train de réfléchir à la place du chaos dans nos processus créatifs, puis à comment, tu sais, genre, je pense que t'étais peut-être là quand j'avais donné mon programme sur la détox de la bonne élève, tu sais, genre beaucoup sortir des carcans préétablis. Mais bon, c'est une longue introduction que je viens faire. D'habitude, je commence avec ma question brise-glace, qui est ce que tu voulais être quand t'étais petite.
Oh, j'ai tellement plein de bonnes histoires. Je vais essayer d'en choisir une par rapport à ça.
Yes!
OK. Une chose là qui faisait bien rire mon entourage, quand j'étais jeune, comment ça s'appelait donc? Je voulais être... Ah, je me rappelle plus du terme, là, mais c'était la professionnelle qui s'occupe de faire les vitrines dans les magasins.
Wow!
T'sais, les mannequins pis tout. Ça, c'était à cause du film qui s'appelait Mannequin. Genre, je sais pas si tu te rappelles, dans les années 80. L'idée, le concept du film, c'est très simple. C'est genre... un gars qui est célibataire, mais il est donc fin, tu sais, puis finalement, il est pas capable de se trouver personne à son goût, puis là, il travaille dans un magasin, puis il fait des vitrines, puis là, il y a un des mannequins qui, pendant la nuit, est une vraie femme, là, quasiment comme une sirène, là, tu sais.
Wow!
Exactement. Puis là, ben, elle l'aide à concevoir des vitrines, là, écoute, complètement éclatées, là, super réalistes, puis tout ça, puis là, ça sort vraiment de l'ordinaire. Et ça, c'est un film qui m'a marqué, là. Je sais pas quel âge que j'avais, mais je te dirais à 8-10 ans, puis j'étais comme, ouais, c'est ça que je veux faire, moi. Je veux faire des vitrines dans les magasins avec des mannequins. Hey, je rêvais de tout ça. Faire des enceintes, puis tout. Ouais.
Puis est-ce qu'il finit avec elle? Est-ce qu'elle redevient humaine pour toujours?
Je m'en rappelle plus. Je pense que je suis due pour le re-regarder. Ça doit pas être bien bon, d'ailleurs, aujourd'hui. Je me rappelle plus, là. C'est genre une affaire de sirène que, genre, il l'embrasse puis elle devient humaine ou je sais pas.
Ah ouais. Wow. J'ai jamais entendu parler de ce film-là. Intéressant. OK, j'ai jamais rencontré personne qui voulait faire ça dans la vie. Fait que c'est vraiment, vraiment très cool. Ce que je retiens de ça, naturellement, c'est créer des choses inusitées pour les gens, des comme qui vont les attraper dans leur quotidien, qui vont leur donner une expérience différente aussi, puis peut-être les mettre en joie, qui sait, en tout cas les amener à acheter.
Ouais. Ben c'est drôle, tu sais, moi ce qui me faisait triper, c'est créer l'ambiance, puis le faire comme « Ah oh, mon Dieu, c'est bien le fun! » Puis je me faisais des setups de vitrines dans ma... En tout cas, je dessinais, puis... Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que je suis comme « Ah, je n'ai jamais penché sur le en dessous, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, là? »
Ouais, non, c'est une des raisons pour lesquelles je pose cette question, parce qu'il y a toujours un... Il y a comme quelque chose de cohérent dans notre cerveau qui fait qu'on a envie de peut-être répéter ça dans d'autres sphères de notre vie ou dans d'autres façons. Ben, on va explorer ça à travers cette entrevue. Mais bon... pour en revenir justement, bon, à cette histoire de YouTube et de chaos forcé, j'avais trouvé ça super intéressant, puis j'avais eu envie de t'entendre justement plus en profondeur sur ta vision de la place du chaos dans l'innovation, la place du chaos dans l'entreprise, parce que dans le fond, toi, tu travailles avec des équipes pour les aider justement à créer des nouvelles...
Ouais.
À solutionner des problèmes de façon différente. Puis pour ça, tu leur crées des expériences inusitées aussi, qui les sortent de leur modèle de réflexion. Fait que je voulais commencer avec une question. Tu sais, le mot « innovation », c'est un terme qui peut être un peu intimidant, je trouve, pour certaines personnes. Un peu comme si c'était réservé, tu sais, aux start-up tech, à genre, tu sais, des entreprises avec des départements de... recherche et développement, genre, tu sais, puis des choses bien compliquées. Puis toi, comment est-ce que tu définis ce terme-là, ou comment est-ce que tu vois c'est quoi l'innovation, comment tu le comprends?
Moi, comment je le comprends, l'innovation, c'est tout simplement une nouvelle façon de faire les choses, de présenter les choses qu'on n'a jamais fait avant. Mais pas qu'il s'est jamais fait avant sur la planète entière. Que, par exemple, une compagnie qui était toute papier, puis que demain décide de un petit peu s'informatiser, ben c'est une innovation pour eux. Mais c'est pas nécessairement aussi complexe que ça. Ça peut être juste de dire, on change notre processus puis on le vire à l'envers pour notre processus. Ça peut être de marketing, ça peut être de rédaction, ça peut être de comment on crée des événements. L'innovation, c'est tellement plus simple qu'on pense. C'est juste d'avoir le courage de se regarder dans le miroir puis de regarder ce qu'on fait puis qu'on prend pour acquis depuis des millions d'années. Bon, peut-être pas des millions, mais depuis longtemps. Puis de dire... Il y aurait-tu d'autres moyens de voir les choses puis de faire autrement, puis on l'essaye-tu? Mm-hmm. C'est juste ça, comment moi je le vois, du moins.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, puis comment est-ce que tu as décidé de vraiment t'intéresser à ça, puis à comment ça. Les gens ils vivent ça?
Oui. Il y a quelques années, je venais de débarquer dans une compagnie de tech aussi, là, numérique, tout ça, puis je venais juste d'arriver, puis j'étais flabbergastée de voir comment je trouvais que le monde dormait au gaz. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on était tous des soldats dans nos petits cubicules gris, là, puis qu'on chuchotait, c'est pas des farces, là, genre le monde il chuchotait pour se parler. J'étais là, merde, il y a plus d'ambiance dans une bibliothèque là, qu'ici. Là. On est une compagnie en tech. Je veux dire, on doit innover parce qu'on est mort demain, là, puis ça, c'est d'ailleurs, parenthèse, c'est souvent une affaire qu'on se fait croire de « oui, on innove, on est bien bon, puis tout ». C'est pas vrai, parce que dans le fond, si tu changes pas et tu remets pas en question tes façons de faire, même tes produits, tes services et tout ça constamment, peut-être pas à minute près, mais facilement tous les mois, tu vas te faire ramasser par la compétition qui, eux, vont le faire. Fait que c'est une question de vie ou de mort, là. Bref. J'étais dans cette compagnie-là et je me disais, je peux pas croire qu'on n'est pas comme en train de réinventer le monde. On est 500 cerveaux dans cette compagnie-là, là. Hey, on devrait être écœurant. Comment ça se fait? Puis, je me suis donné le défi personnel, je ne sais pas trop pourquoi, mais je me suis dit, ça change-tu une culture d'entreprise? Parce que je me disais, si ça ne change pas, là, ça veut dire qu'une compagnie de même qui a 500 cerveaux, ben on met la clé dans la porte ou on met tout le monde dehors? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Là. Ça veut dire qu'on va fermer plein de compagnies d'ici 2, 3, 5, 10 ans, tu sais. Mm-hmm. Je me suis dit, ça doit se changer, une culture comme ça, pour être plus innovant, pour être plus créatif, pour avoir plus d'audace, tu sais. Mais comment? C'est ça l'histoire, comment? Wow. C'est ça. Fait que ça vient de là, en fait.
Puis là, qu'est-ce que t'as fait? T'as genre parlé à ton manager, puis tu lui as dit voici l'état des lieux?
Ouais, ben, tu sais, j'étais gestionnaire de... Ça fait... Hey, j'ai compté ça, c'est pas des jokes, ça fait quelques semaines que je comptais ça, ça fait genre 20 ans que je fais de la gestion de projet. Donc, de par mon rôle de gestionnaire de projet, je suis habituée d'avoir des gens qui font partie d'une équipe, mais pour lesquels j'ai aucune autorité sur eux. En fait, un gestionnaire de projet, typiquement, n'a jamais d'autorité sur personne. Donc, tu dois être mauditement, excuse-moi le terme, créatif pour être capable d'embarquer le monde avec toi, tu sais, puis que le monde s'auto-organise jusqu'à un certain niveau, etc. Bref, je me disais, de par ce background-là, j'arrivais souvent avec mes équipes à plus petit niveau à arriver avec des micro-innovations, tu sais, mais c'était à micro. Puis ça restait dans l'équipe, ça ne savait pas vraiment d'une équipe à l'autre, tout ça. Fait que c'était vraiment très, très silo power, là. Fait que oui, je me suis dit, OK, ça change-tu une culture d'organisation? Fait que évidemment, j'ai fait ça by the book, tu sais, parce que là, tu cherches sur les internets, puis la recette, c'est... Tu vas voir ton boss, il faut que ça parte d'en haut, blablabla, blablabla. Bla. Ben là, c'était pas drôle. Je me suis... ça a pas marché pantoute. Pas pantoute. Je me suis pété le nez sur un mur, sur plusieurs murs d'ailleurs, parce que là, ce que j'arrivais, c'est je faisais des belles présentations, j'essayais de convaincre les boss, dans le fond, de dire « Hey, tu sais, il faut qu'on soit plus innovant, tu sais, il faut qu'on essaye... qu'on donne la permission au monde d'innover plus. Il faut que si, il faut que si, il faut que ça. » Puis là, c'était « Ah oui, mais on n'a pas le temps, puis on n'a pas le budget, puis hein, blablabla. » Fait que j'étais comme « Bon. » Fait que là, ça n'a pas marché. Je me suis fait fermer la porte au nez, tout ça. Fait que je me suis dit « Ah, ça marche pas. Ça ne change pas une culture, à moins que ça parte d'en haut. Mais je suis comme, ah, mais ça se peut pas, genre. C'est un peu comme, tu devrais voir l'image que j'ai dans la tête, c'est comme une rébellion en prison, là. Mm-hmm. Tu sais, si les prisonniers se mettent ensemble, là, on s'entend dessus que les gardes, ils n'ont aucune chance. Ça passe pas. Mais faut que les prisonniers, ils se parlent entre eux, puis il faut qu'ils se disent, OK, go, on y va, tu sais. Bon, c'est pas la meilleure image, là, mais c'est un peu ça quand même. Fait que je me suis dit, tranquille, en fait, sans nécessairement avoir une stratégie en tête, là, l'instinct de survie était dans le tapis, à côté dans le tapis, puis je me disais, là, il y avait des équipes qui étaient game. Tu sais, il y avait des équipes, là, je le sentais, là, ils brûlaient, là, le feu intérieur brûlait, là, de genre, on voudrait, par exemple, utiliser telle nouvelle techno que personne dans la compagnie utilise pour faire tel nouveau projet. J'étais comme, OK, guys, on le fait. Puis là, c'était du jamais vu parce que là, ça a été approuvé par tel boss, puis le boss du boss, puis le boss du boss du boss du boss, puis tout ça. Je suis comme, mais vous me dites que ça fait pas de sens d'utiliser la vieille techno. Faisons un genre de business case, puis dans le fond, allons-y pour faire une espèce de prototype, allons tester ça, puis allons voir combien de temps on aurait besoin vraiment pour prouver notre idée. Puis ce qui nous a aidé, en quelque part, c'est qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de budget, on n'avait pas de temps, on n'avait pas rien, fait qu'il fallait qu'on fasse des miracles avec pas grand-chose, fait qu'il fallait qu'on aille tester l'idée avec pas grand-chose. Mm-hmm. Ce qui est, en parenthèse, la base, je pense, de l'innovation. Mm-hmm. C'est tester avec quasiment rien comment on est capable d'aller faire une preuve de concept. T'sais. Fait que j'ai commencé comme ça avec des équipes qui étaient vraiment en game, puis là, tranquillement, pas vite, on a eu un autre win. Tu sais, c'était « Ah! Ben le boss, il a dit oui à notre changement de techno. Parfait, cool! » Là, moi, je faisais du bruit avec ça. Ça, c'est une autre leçon. Je fais du bruit, ça contamine les autres. Là, les autres sont comme « Hein? Comment ça qu'elle a réussi, elle? Mm-hmm. Comment ça que leur équipe a réussi? » Ah, ben, on a fait un business case, on s'y est pris comme ci, comme ça. Ah, ouais, OK. Parfait, c'est pas grand-chose. Prochaine affaire que j'entends une équipe chialer, parce que moi, c'était ça mon cue quand le monde chialait que les choses se passaient pas. Là, j'allais voir, sont-ils prêts comme à se mettre en mode solution, tu sais. Mm-hmm. Et ainsi de suite. Puis finalement, ça a été jusqu'à créer le mouvement Spark the Change dans l'entreprise. C'est dans le fond, c'était très, très fortement inspiré du mouvement Spark the Change qui est collé au mouvement d'Agile Montréal à Montréal. Puis l'idée, c'est sparker le changement, en fait, d'allumer la flamme ou du moins de mettre un petit peu de gaz sur la flamme de changement, tu sais, que les gens ont à l'intérieur d'eux. Puis ça a fait vraiment un mouvement trans-équipe, trans-département où là, les gens se sont mis en mode solution. Au lieu de chialer contre le boss, contre la stratégie, contre ça, on peut pas rien faire, là, c'était « Ah, OK, moi, j'ai une idée. » C'était comme « OK, là, ils venaient me voir. » Puis, je les aidais à framer leur idée puis à dire « OK, toi, ton idée, là, c'est ça. Là. Toi, là, tu veux construire la navette pour aller sur Mars. OK, là, on va couper dans le gras de ton idée puis on va aller valider ton concept. Fait qu'on va construire une navette en bâton de particle puis on va regarder si ça vole. Mm-hmm. » Fait que c'est ça qu'on a fait, puis là, ben il y a des projets qui ont marché, des projets qui n'ont pas marché, mais l'idée, c'était pas important que ça marche ou pas. L'idée, c'était de changer le mindset pour dire, je suis capable, si j'ai une idée, je suis capable de comme briser mon idée en plus petits morceaux, d'aller valider ma preuve de concept, puis d'avancer comme ça.
Pis ouais, c'est super intéressant. Ça me fait penser, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Thinking in Systems ». C'est sur la pensée systémique, le system thinking, qui, je pense, est vraiment proche et adjacent au design thinking peut-être même le père du design thinking, plus d'un niveau philosophique, genre. Puis c'était intéressant parce que ça parlait du fait que, tu sais, un organisme ou une organisation, ça a tellement, genre, de... Ça doit être capable de s'auto-organiser pour pouvoir fonctionner, puis que les hiérarchies qui sont bâties, ben c'est des types d'organisation pour maintenir des structures. Mais ce qui est intéressant dans ton anecdote, c'est que tu es allé dans le modèle hiérarchique, mais sa fonction à quelque part au boss, puis le boss du boss, eux autres, c'est de maintenir les structures qui sont déjà en place pour pas que le chaos s'installe trop. Sauf que là où ça a été... efficace, ça a été de rentrer directement au sein de l'équipe qui, là, sont capables de s'auto-organiser puis là, de créer, genre, du changement de cette façon-là. Puis je trouve ça super intéressant, tu sais, plus de le voir comme ça, là, d'un point de vue méta, là, de le comprendre comme ces deux tests que tu as fait, là.
Ben, tu sais, c'est drôle ce que tu dis, c'est, ça me fait vraiment penser à l'analogie du carré de sable. Bon, je parle tout le temps de carré de sable. Le fameux carré de sable où tu dis, ben, c'est quoi mon carré de sable où je peux, j'ai comme carte blanche, mais dans mon carré de sable. Là, on ne voit pas, là, mais je fais des mouvements avec mes mains pour montrer la grosseur du carré de sable. Puis, une équipe qui s'est jamais auto-organisée de sa vie, tu vas pas commencer à dire, vas-y, garoche-toi dans l'océan, puis aide du vent, innove, puis en way, gère-toi. Et non. Fait que tu donnes un petit carré de sable, puis l'idée, c'est de, dans le petit carré de sable, t'as carte blanche. Mais le carré de sable est tellement petit, puis le contour est clairement défini. Fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas comme de confusion à dire, ouais, mais j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça. C'est mesure, là. C'était de dire, par exemple, j'ai-tu le droit de faire une preuve de concept avec tel logiciel? Je pense que j'ai pas le droit. Là, c'était comme, mais c'est parce que. Pourquoi t'as pas le droit? Mais c'est parce que ça coûte 30$. OK? Puis, ben, mais j'ai pas le droit dans mon compte de dépenses 30$. OK? Puis genre, ça fait 3 ans que tu m'en parles, ça te tente-tu, genre, de le payer de ta poche, puis au pire, on te remboursera après, tu sais? Ah ouais, j'ai le droit de faire ça! C'est comme, c'est ça, là. Mais je te dirais pire que ça, là, des exemples, là, tellement comme, tu te dis, voyons donc, j'ai pas le droit de faire ça. Fait que c'est une histoire de corps et de sang, puis ces équipes-là avec lesquelles je travaillais, qui étaient game, plus j'avançais avec ces équipes-là, c'est-à-dire de les aider à structurer leurs idées, à prototyper, à prouver que leurs idées sont bonnes, parce que c'est pas toutes les idées qui sont bonnes, mais il faut qu'on sache pourquoi elles sont pas bonnes et qu'est-ce qui est bon. Mais on agrandissait au fur et à mesure les carrés de sable. Mais après ça, mais t'as quand même besoin des boss, je veux dire, c'est les boss qui vont tracer les carrés de sable. Les boss sont là pour aider, pour amener une certaine vision, une direction, c'est sûr, là. Les micromanager, dire quoi faire puis comment faire, ça aide pas tellement.
Puis ce que j'aime dans ça aussi, c'est le côté organique de tout ça, parce qu'à quelque part, tu sais, puis moi, j'utilise de plus en plus, là, depuis que j'ai commencé à réfléchir à autopoésie, c'est tout ça au mécanisme naturel, mettons, du corps de s'auto-régulariser, puis des choses comme ça. Mais tu sais, il faut le penser comme chacun de nos systèmes dans notre corps sont capables de faire tout un tas de choses de façon indépendante, puis des fois de créer un bypass parce qu'il y a comme, OK, là, genre, je sais pas moi, mon petit doigt a arrêté de fonctionner, fait qu'on va utiliser genre un autre chemin pour amener l'information là où c'est nécessaire. Bref, mais que, à quelque part, ma structure de mon corps humain reste la même, tu sais, genre, je deviens pas un ornithorynque parce que ma température a commencé à se régulariser à d'autres choses. Fait que je pense que c'est la même aussi analogie de voir comme, OK, ben ton carré de sable, c'est vraiment ces limites-là qui font, ben la culture de l'organisation, elle reste plus ou moins semblable, tu sais, on a les mêmes objectifs, on a la même vision qui perdure, mais à l'intérieur de ça, il y a de l'espace, puis cet espace-là pour bouger, je pense que c'est là que le chaos ou la conversation autour du chaos devient intéressante, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du chaos, mais le chaos permet le changement. Tu sais, permet d'aller faire ces transmutations-là pour trouver différentes façons de faire.
Mais ça fait peur, le chaos, ça me fait encore peur. C'est même dans mon processus créatif, là, tu vois, je suis en train de créer une présentation que je fais dans quelques jours. Puis le début de mon processus était évidemment chaotique, là, puis ça me faisait peur, là. C'est encore difficile, même si je sais pertinemment que ça va mener à quelque chose. Mais le chaos du début, là, ça fait vraiment, vraiment peur. Parce que nécessairement, il y a des faux pas, nécessairement, il y a de la perte de temps, je vais dire en grosses guillemets, là. Pas nécessairement de la perte de temps, mais on peut le voir comme ça quand on sait pas où on s'en va. C'est ça, au début, là, on sait pas où on s'en va, tu sais, vraiment.
Ouais, puis je pense que j'aimerais ça que tu nous parles justement de cette expérience que tu avais faite, parce que encore une fois, ton carré de sable était petit dans cette vidéo YouTube que tu avais filmée, dans laquelle tu étais dans une conférence, une salle de conférence du moins, puis en tout cas, je te laisse comme nous expliquer un peu ce que tu as créé avec ça, parce que je trouvais ça vraiment intéressant de voir aussi comment les gens ont commencé à réagir au début, puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, ouais, raconte-nous cette anecdote.
Salut les ambitieuses! Je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, ça a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans ta vision, peu importe les tempêtes que tu vas rencontrer au fil des ans. Mais il faut pas non plus se faire d'illusions. Ton énergie est limitée, tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts, et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton business, même quand le monde est sans dessus-dessous. Si je te parle de ça, c'est que le temps est venu de réouvrir les portes de mon programme signature Autopoiesis. Ce programme, c'est un hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire travailler dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement, t'es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Si tu veux avoir tous les détails et être invité à la masterclass privée « Apprendre à danser avec le chaos entrepreneurial », va tout de suite remplir le formulaire qui se trouve sur la page du programme à mtamarque.com/autopoiesis. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. C'est à mtamarque.com/autopoiesis. Autopoiesis, auto comme voiture et poiesis, P-O-I-E-S-I-S. Et t'inquiète, si tu arrives sur mon site, tu vas le trouver facilement dans l'onglet « Programme ». Maintenant, de retour à l'épisode.
Ben, cette conférence-là, ça faisait un bout que je l'avais dans ma tête, là, parce que, en fait, ça fait un peu référence à l'histoire que je te racontais tantôt de la genèse de mon intérêt pour l'innovation, puis de dire comment ça se fait que quand on donne la permission aux gens d'innover puis d'avoir des idées, ça se passe pas. Comment ça se fait, tu sais? Puis dans toutes mes expérimentations que j'ai pu faire, c'est qu'une des choses que j'ai réalisées, c'est que il faut briser des règles pour innover. Puis c'est dur au début, tu sais. C'est vraiment, vraiment dur de briser ces règles-là parce qu'on dit, ben non, c'est le même pour qu'on fasse ça. Tu sais, le fameux dans les entreprises, ben non, on a toujours fait ça de même. C'est une règle souvent non écrite, là. Donc, il faut briser des règles. C'est difficile de briser les règles et c'est encore plus difficile de briser des règles quand on n'est même pas conscient que c'est des règles. Fait que j'avais envie d'adresser ça dans cette conférence-là où on parle, ben là, c'est un événement sur l'agilité, tout ça, fait que c'est vraiment tout le développement de logiciels qui est, bref, une méthode de l'agilité. Je vais skipper par-dessus ça, mais c'est vraiment très technique, les conférences, d'habitude, t'sais. Puis là, le thème, c'était de ramener l'humain au centre de l'agilité. Fait que je me dis, mais c'est parfait, ça fit. Moi, je veux parler d'innovation, puis je veux parler de l'humain, parce que c'est très à la mode depuis quelques années de parler de design thinking, de parler de techniques de brainstorming, de ci, puis de ça. Pour innover, ça prend telle méthode, il faut que tu te fasses former, ça coûte une fortune. Et, grosse surprise, le lendemain de la formation, puis 2 semaines après, il n'y a rien qui a changé. Parce que c'est des humains qui doivent consciemment prendre la décision de faire les choses différemment, puis de s'en aller vers l'inconnu, puis vers le chaos, puis tout ça. Puis, ben on n'aime pas ça. Fait qu'on le fait pas. Fait que finalement, ben il n'y a rien qui se passe. Tout ça pour dire que je voulais que les gens... Au-delà de dire au monde, alors, pour innover, il faut briser les règles, voici ma recette, gna gna gna, je me suis dit, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les conférences immersives, ou les ateliers expérientiels, ou tout ça, puis je trouve ça tellement plus puissant de donner comme 10% moins... Je veux dire, 10% théorie au lieu de 100% théorie, mettons, versus une conférence ordinaire, mais que le monde le vive et qu'à la fin, les gens en parlent. Ça, c'est puissant, là. Vraiment, vraiment puissant. Parce que ça vient plus juste de moi, puis c'est comme en groupe, on a vécu quelque chose. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, bon, ben OK, comment on fait pour briser les règles? Comment je pourrais faire pour les amener à briser des règles puis à catcher de quoi je parle, tu sais? Fait que je me suis dit, ben, c'est ça. C'est quoi mon carré de salle? C'est une salle de conférence, je vais dire plate, dans le sens que gris, avec du tapis puis des chaises tout pognées ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, toutes les salles de conférence sont pareilles. C'est ça que j'ai. Fait qu'est-ce que je peux faire avec ça pour jouer avec ça? Puis, comment on fait pour briser des règles? Fait que ça a été ça l'idée de un, prendre conscience de c'est quoi les règles non écrites qu'il y a quand on assiste à une conférence? Puis de les amener à les briser. Puis après ça, voir les réactions. Ça, c'était très drôle.
Ouais. Puis pour ceux qui écoutent puis qui n'ont pas nécessairement vu encore la vidéo, tu sais, des règles non écrites, ça peut être genre, il faut qu'on soit assis sur notre chaise pendant qu'on écoute Émilie parler. Ou il faut qu'on reste en silence. Tu sais, je veux dire, il y a des règles de bienséance là-dedans. Tu sais, il y a tout un tas de règles. Il y a des règles qui sont propres à la sécurité de l'endroit. Il y a des règles qui sont propres à ce qu'on a appris comme étant ce qui était poli ou pas poli. Il y a des règles qui sont... tu sais, il y a différents niveaux aussi de règles sociales, psychologiques et aussi individuelles, j'imagine, qu'on met. Puis là, c'est de nous amener à les briser d'une façon sécuritaire. Puis peut-être, justement, un mot sur la façon de briser des règles sécuritaires. Ben, je pense que ce qui fait peur dans le chaos, c'est que ça devienne dangereux jusqu'à un certain point. T'as-tu réfléchi à ça? Ou, tu sais, comme, est-ce que des fois, ça déborde? Ou...
Non, je suis peut-être naïve, mais, tu sais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment confiance en l'intelligence collective. C'est un terme très galvaudé, je trouve, mais c'est vraiment puissant. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, ça je ne l'ai pas mis dans la vidéo, là, mais à la fin de la conférence, quand j'ai fait je posais quelques questions, puis il y avait du monde qui parlait, puis là les gens rebondissaient sur ce que le dernier, la dernière personne avait dit, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, waouh, tu sais, comment c'est puissant l'autorégulation dans un groupe, parce qu'on était quand même 150, peut-être même plus dans la salle, là, on était plein à craquer, fait qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour. Bref. Puis à un moment donné, ben c'est ça, quand j'amenais les gens à exagérer puis à briser les règles, là, le bordel a pogné dans la place. Là, il y avait des chaises empilées, il y avait du monde qui sont montés sur le stage avec le micro, il y a du monde qui a mis de la musique dans le micro, il y a du monde qui joue avec les lumières, il y a du monde qui a déplacé le projecteur. C'était le chaos. Mais tu sais, encore là, moi j'avais mon carré de sort. Fait que je savais que c'était pendant X minutes, je savais que ça serait le chaos, puis même que j'anticipais que le monde ne se donnerait pas tant la permission. Là. Fait que je les crinquais en plus parce qu'il y en avait qui étaient gênés. Là, c'était comme, ben, nous autres, on est debout. J'étais là, bien, OK, bravo, un peu plus. Là, bref, il y en a qui ont... Puis moi, j'avais tamisé les lumières parce que moi, j'aime pas les néons blancs. Fait que je m'assume là-dedans. Évidemment, j'avais mis des lumières de couleur pour ça mettre un peu d'ambiance. Puis à un moment donné, il y a du monde qui ont joué avec les lumières. Puis là, il y avait les gros néons blancs, full blanc. Qu'il y avait dans toutes les autres conférences. Personne n'avait joué avec ces lumières-là. Et sauf que là, tout le monde était comme habitué à une espèce d'ambiance un peu tamisée. Puis là, il y a du monde qui ont joué avec les lumières. Puis là, c'était comme... Mais le groupe a réagi. Le groupe a fait comme... Ou tu sais, grimace sonore, whatever. Ce qui fait que les gens qui jouaient avec les lumières ont arrêté de jouer avec les lumières puis ont remis ça comme si c'était...
Intéressant.
Fait que ce que la personne amenait à la fin quand on avait notre get-together là, pour discuter de ce qu'on venait de vivre ensemble, c'était « Wow! » Tu sais, comment le groupe a comme auto-régulé la patente. Fait que j'ai pas peur au débordement parce que quand on est un groupe comme ça, ça se gère. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas. C'est l'impression, je sais pas. Je pourrais pas dire c'est quoi le concept en arrière de ça, mais...
Ouais, il y a peut-être l'intention aussi de ce que, tu sais, parce que bon, aussi quand on est une organisation ou une équipe ou un groupe, tu sais, on travaille tous dans une direction X, fait que tu sais, il y a des limites aussi à ce qu'on veut dévier les gens de du projet ou de l'objectif ou des choses comme ça. Puis là, c'est sûr, ils étaient dans une conférence, tout le monde était là pour une raison, c'était pas random de... C'est celui qui voulait aller, mettons, au show de Metallica, il s'est pas ramassé dans ta conférence parce qu'il aurait comme créé un autre type de chaos.
Ouais, effectivement, là, c'est ça, effectivement. Puis, je connaissais la crowd aussi, là, fait que je savais que j'avais pas... qu'il fallait que je travaille fort quand même pour que ça lève. Effectivement, si ça avait été un autre crowd, ça aurait été d'autres choses, là. Mais je connaissais la crowd, mais non, c'est fabuleux de voir le groupe s'auto-réguler comme ça, là, c'était...
C'était fantastique. Puis on m'a même dit à la fin de la conférence, c'est ça, on était 150 dans la place, ça fait qu'on était quand même pas mal. Puis c'était une heure la conférence, ça fait que ça va vite. En sortant de là, je me suis fait dire, aïe aïe, on était 150, puis je sentais que j'avais un lien particulier avec tout le monde dans la salle. On était comme devenus des best friends, toute la gang dans la salle. J'étais comme, ouais, on a vécu quelque chose de si simple en même temps, tu sais.
Ouais, puis j'aimerais ça le ramener peut-être au processus de solutionner ou de créativité, tu sais, de solutionner des problèmes, parce que bon, je pense que toi et moi, on voit solutionner des problèmes demande la créativité, tu sais, ça va, tout va dans le même, dans la même, le même bateau. Mais tu sais, une fois que t'as accepté de briser les règles, après ça, est-ce que tu fais juste attendre, tu sais, comme, après ça, il y a un processus de structuration à quelque part qui doit s'établir, tu sais, tu dois ramener tout ce chaos-là d'une certaine façon vers, tu sais, canaliser cette énergie, comme c'est quoi l'étape après le chaos, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Ben, tu sais, quand on parle de brainstorm, il y a souvent, comme genre, mettons, trois étapes, comme je vulgarise très, très haut niveau, il y a le processus de, je vais parler en franglais, on frame le problème, fait qu'on va vraiment bien cadrer c'est quoi le problème, puis on va aller creuser le pourquoi du comment, puis les cinq pourquoi, puis en ouais, puis s'assurer qu'on est en train, qu'on a compris le bon problème à solutionner. Après ça, deuxième étape, ça c'est l'idéation, là on appelle ça de la divergence. Fait que les cinq, tu sais, c'est comme les petits chapeaux de canard, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, mais... Fait qu'on diverge, là c'est là qu'on exagère. C'est là que briser les règles s'insère. Le briser les règles, ça nous aide à ouvrir nos yeux, ouvrir nos opportunités, à pas juger, genre toutes les idées, les affaires pas rapport là, qui vont nous passer par la tête, on les dit. Puis là, vu qu'on se re-questionne sur les règles, ben on arrive avec des idées tellement nouvelles, des fois c'est souvent super simple. Puis c'est là qu'on va diverger. Puis là, on a exagéré, puis là on a 58 000 idées, puis là c'est le party, tout ça. L'erreur qu'on fait souvent, c'est là, on est avec tout ça, puis on est comme « Oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec tout ça? » Fait que l'idée après ça, c'est de converger. Fait que là, on ramène le signe l'autre bord, là, le signe de canard. Je sais pas, on appelle ça des becs de canard.
J'ai jamais entendu bec de canard, mais je sais pas, des accents complexes, des crochets, je sais pas.
Le côté, là, je sais pas trop, ouais. En tout cas. Bref.
Mais, là, on vient okay, juste pour expliquer à ceux qui ne voient pas, Émilie fait un signe avec ses mains où ses deux membres majeurs sont ensemble comme un petit triangle. Bec de canard.
C'est ça. Merci. Fait que, bref, après ça, il faut converger. Converger, ça veut dire que là, c'est pas toutes les idées qui sont bonnes. On va prendre des... Puis aussi... Dire une bonne idée, c'est pas seulement une bonne idée, c'est une idée qu'on va aller creuser, qu'on va aller valider, qu'on va aller faire une preuve de concept pour aller valider si c'est une bonne idée ou s'il y a quelque chose de bon. Parce que dans le fond, quand on vient converger, là, on se ramasse avec un diamant comme brut, là. C'est pas beau, là, tu sais. Puis là, on s'en vient voir, on a-tu vraiment un diamant là-dedans ou on s'est complètement trompé puis c'est pas ça pantoute, finalement. Fait que pour converger, il y a plein de manières de faire. Tu sais, il y a les fameux axes, là, et on va parler, c'est une matrice qu'on appelle ça? Matrice avec deux axes, puis les axes, ben, on va mettre whatever, les critères qui sont les plus importants pour nous, ça peut être la faisabilité, l'argent qu'on doit dépenser pour tester cette idée-là, ça peut être la valeur qu'on amène à nos clients, à notre business, peu importe, puis on va venir prioriser ces idées-là. Puis là, ben, on en choisit de préférence une, deux ou trois gros max. On prend cette idée-là, puis là, on essaie de se dire comment est-ce que je peux aller valider cette idée-là, évidemment, avec les principaux intéressés, là, pas dans notre tête, sur le coin du bureau pour dire genre « Ah oui, c'est tellement une bonne idée. » Non, c'est aller avec nos clients ou avec nos collègues si c'est une idée pour améliorer, par exemple, un processus interne avec des collègues et tout ça. Fait comment on fait pour faire un prototype style napkin, là, que tu es capable d'expliquer sur un napkin un prototype avec des bâtons de popsicle, il faut que ça soit gênant à aller montrer puis à aller tester. C'est ça, c'est un des critères. Si tu n'es pas gêné de montrer ton test à tes clients ou à tes collègues ou tout ça, ça veut dire que c'est pas un prototype. Tu as travaillé bien trop longtemps là-dessus. Puis là, tu vas aller tester ça, puis tu vas aller mesurer intelligemment. Là, il y a plein de façons de mesurer, mais l'idée, c'est d'aller chercher du data, des données, puis de dire, c'est une bonne idée ou pas? Puis si, peu importe la réponse, c'est pourquoi?
Mm-hmm.
Puis, mm-hmm. comme ça, on avance. Après ça, on peut aller tester l'autre idée, on peut faire des mix avec les autres idées, et ainsi de suite.
Oui, parce qu'on veut voir rapidement c'est où les frictions ou c'est où les choses qui ne fonctionnent pas pour pouvoir après ça inclure d'autres dimensions. Puis je pense qu'il y a ça aussi. Puis quand je réfléchissais à le lien que je fais, là, c'est sûr que tu parles en équipe, mais c'est le même processus qui se passe même si on travaille en solitaire dans notre business. On a des petites mini-équipes. Mais il y a cette idée aussi de pas introduire notre ego dans l'idée, puis de comprendre que l'idée, elle est juste là pour servir la solution éventuellement, puis que, tu sais, se tromper d'idée, c'est pas qu'on s'est trompé parce qu'on est une mauvaise personne ou des choses de même, mais vraiment qu'on évolue à travers un processus créatif, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de ça qui bloque les gens aussi d'expérimenter des nouvelles choses pour ce que les gens vont dire d'eux ou ce qu'eux-mêmes vont dire sur eux-mêmes. D'avoir proposé ou d'avoir essayé quelque chose comme ça, alors que ça fait partie de l'innovation.
Et c'est extrêmement difficile. C'est vrai, c'est un bon point ce que tu amènes. Se détacher de l'idée, la valeur de l'idée n'a rien à voir avec la valeur de notre personne ou de notre expertise ou de tout ça, zéro pantoute. Mais c'est très, très difficile et je parle en connaissance de cause, je trouve ça encore difficile. Des fois, de me dire, je propose telle idée ou telle affaire, tout ça, puis je me fais démolir ça parce que ça répond pas aux besoins, parce que je me prends pas de la bonne façon, whatever, c'est encore difficile. Puis c'est normal. C'est normal. Puis j'ai l'impression que c'est plus qu'on pratique aussi, plus qu'on va chercher du feedback, plus qu'on est capable de se détacher de la valeur de la solution, tu sais, ou de se détacher de l'équation valeur de l'idée égale ma valeur à moi, ou valeur de mon expertise, tu sais. C'est... faut se pratiquer, parce que c'est pas évident.
Ouais, puis c'est là que, selon moi, tu sais, c'est des expertises comme la mienne avec du coaching, puis avec de réfléchir à nos schémas de pensée autour de la créativité qui va être... parce que c'est une pratique, plus que c'est quelque chose qu'on sait, tu sais, c'est une pratique émotionnelle presque, genre, tu sais, de naviguer à travers le chaos, puis de naviguer à travers le fait de créer. Puis tu sais, je dis une pratique émotionnelle, mais psychologique aussi, là. Puis n'importe quel artiste ou auteur ou peu importe, qui est dans un processus d'accoucher un livre ou accoucher, genre, d'une œuvre ou d'une business ou peu importe, ben c'est un processus qui est douloureux parce que justement, il y a toujours plein de petites morts d'ego à travers ça, puis il y a l'incertitude, puis il y a la peur que ça marche pas, puis qu'on ait investi notre temps, puis tu sais, il y a ce risque-là qui fait partie de l'expérimentation, mais comme tu as dit aussi au début, c'est ça où tu meurs à quelque part, parce que si tu innoves pas, puis que tu veux jamais passer à travers ce processus-là, ben tu vas rapidement devenir désuet et obsolète.
Définitivement. Oui, c'est ça. C'est une question de vie ou mort. Et surtout, on s'entend tout ça avec l'intelligence artificielle qui débarque, là. Ils disent, là, toutes les tâches comme niaiseuses, répétitives, redondantes, puis tout ça, ça va tout être l'IA qui va prendre le relais là-dessus, là. Fait qu'on a tout intérêt à prendre soin de notre créativité, la collaboration, le problem solving, l'empathie, puis tout ça, parce que ça, c'est pas l'IA qui va s'en occuper, c'est nous. Fait qu'on a tout intérêt à pratiquer, puis à cultiver ces compétences-là. C'est là, là. Je t'inquiète pour nos jeunes, by the way, mais bref.
Ah ouais? Pourquoi?
Ouais, mais là, on va skipper dans... Ben, parce que c'est pas ça qu'ils apprennent à l'école, pas en tout.
Non, ça, c'est pas juste nos jeunes. Je pense que nous,
non plus. Oui, je sais. Non, c'est sûr que non, on n'a pas appris ça, mais sauf que là, je me dis, tu sais, OK, mettons qu'on s'attaque aux adultes, là, puis qu'on dit, OK, on va développer ces compétences-là. OK, fine, là, mais je veux dire, on pourrait aussi être intelligent puis le faire à la base, tu sais, à la source. Parce que là, dans le fond, on casse nos jeunes, ils débarquent sur le marché du travail, puis ils sont zéro fonctionnels.
Je suis 100% d'accord. Pour moi, ça a été une des raisons pour laquelle je me suis tournée vers l'entrepreneuriat. Parce que je réalisais aussi que
il y avait comme une tu sais, le système éducatif nous dit qu'on a besoin d'avoir X diplôme pour faire X travail.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ce qui est vraiment déterministe, genre, tu sais, comme, voici ce que, tu sais, tu apprends pour faire, alors que là, quand t'arrives sur le marché du travail puis en emploi, ben là, t'es comme, si tu sais juste faire, tu vas rapidement avoir un plateau parce que t'es pas capable de penser, tu sais. Puis nous, ce qu'on a besoin dans le business, c'est des gens qui pensent. Mais les gens sont pas habitués à penser parce qu'on leur a dit qu'ils étaient mieux de juste exécuter que de penser, puis là, ben c'est justement cette espèce de clash, puis là, ça arrive, on a des entrepreneurs aussi qui sont encore dans cette mentalité-là, tu sais, la mentalité que j'appelle l'employé, mais c'est pas péjoratif, c'est juste la mentalité de l'exécutant, c'est peut-être ça que je devrais dire plus qu'autre chose. Puis c'est vraiment un gros problème de pas être capable de naviguer justement ces places-là où est-ce que t'as besoin de la pensée critique, t'as besoin de l'expérimentation, t'as besoin de créer des connexions, puis c'est ça, tu sais, genre, faire aller tes neurones dans différentes, de différentes
Ouais. Puis tu sais, c'est même pas, tu sais, moi j'ai des jeunes au secondaire en ce moment, là, il faut que je me retienne pour pas faire des commentaires à chaque fois que je vois leurs affaires, tu sais, puis, anyway, ça c'est une autre histoire, mais c'est même pas juste au secondaire, c'est au cégep, c'est à l'université. Ouais. Ça a pas changé du moment que nous on est allé étudier, là. C'est encore ça, c'est comment on fait plaisir au prof pour avoir la bonne réponse que le prof il veut. Yo, c'est pas de même dans la vraie vie, là. C'est pas comme ça, genre. Fait que là, tu débarques, ah oui, bravo, t'as tout le savoir, puis tout ça. T'sais, on dit souvent, oui, mais l'université, c'est pour te montrer, tu te donner une rigueur, une façon de penser. Je sais pas toi, mais moi, je suis sortie, hey, je suis arrivée en entreprise. Eh, Seigneur! En plus, je suis arrivée en entreprise, je me dis, ah, moi, je vais appliquer sur des postes de direction tout de suite. La petite fille a 22 ans, puis elle n'a pas 8 minutes de vie d'expérience de vie, genre. Et comme, ah, ben oui, moi, j'ai étudié au HEC. Ben non, genre, va manger tes croûtes, fille, là, tu sais. Puis, je suis même pas capable de travailler en équipe parce qu'on n'a jamais appris ça. Comment travailler en équipe?
C'est clair. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai fait un cours dans un diplôme d'administration sur le travail d'équipe. Je trouvais ça drôle.
Quand même, hein? Tu sais, je veux dire, je regarde mes boys, ils me font rire, tu sais. Hey, ils travaillent en équipe. Et peut-être, on va voir le travail d'équipe. Ils s'envoient des photos de leurs réponses, tout ça, dans le fond. On coupe le travail en deux. Puis... Mais tu sais, je faisais ça, moi, avec. Puis à l'université aussi, c'était pareil, là.
Ouais. Non, c'est clair. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a un beau lien à faire, tu sais... C'est intéressant, puis en tout cas, on aurait comme toute une autre conversation sur ça, puis ça, c'est vraiment mon... Tu sais, c'est explicite et implicite dans ma façon de penser au niveau, genre, du système éducatif, tu sais, mais bon. Tu sais, c'est pas pour rien que je parle, justement, encore une fois, de bon élève, parce que c'est vraiment dans cette optique-là. Puis surtout, nous, les femmes, tu sais, où est-ce que, genre... On veut l'avoir notre A sur notre bulletin, puis on est content quand on nous donne genre du praise comme ça. Mais je voulais juste revenir sur le fait aussi de les solutions qui sont créées à travers le chaos, c'est des nouvelles connexions, puis le nom de ta business, c'est la connexiologue, puis je trouvais ça hot parce que ça fait un lien aussi avec ma façon de penser à la créativité qui est de créer des nouvelles connexions neuronales, dans le sens de créer des nouveaux chemins qui ne sont pas des chemins habituels pour tes neurones de justement comme fonctionner. Puis ça, même au niveau de nos propres pensées ou au niveau de notre façon de réagir à certains stimuli ou à certains événements ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut travailler parce que c'est ça la beauté de l'être humain, c'est qu'on peut travailler avec notre cerveau de cette façon-là pour l'amener à ouvrir ses horizons puis ouvrir ses perspectives. Fait qu'il y avait ça que je voulais faire, un petit retour avec ton nom.
J'aime ça. Je trouve ça cool parce que, tu sais, la connexologue, je pense que... Je me rappelle plus d'où ça vient exactement, mais le souvenir que j'ai, c'est quelqu'un qui m'avait dit quand je travaillais en entreprise, « Ah, toi, tu fais rien connecter le monde! » Moi, je trippais. C'est comme, « Faut que tu parles à un tel, là, il parle de ça, il me semble qu'il y a un fit, c'est écœurant, vous allez tripper ensemble, tout ça. » Puis là, je connectais le monde, puis là, je connectais les projets en même temps, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Ah, « Mais toi, t'es une connexiologue. » J'étais là, « c'était comme rester de même, tu sais. » Puis j'étais là, « Ah ouais, c'est vrai, j'aime ça, connecter les idées. » Je le fais encore aujourd'hui, je peux juste pas m'empêcher de Ah, tu devrais parler à un tel qui l'a lancé ci, puis ça, puis, ou tu sais, des idées de projet ou des trucs. C'est ça, souvent, l'innovation, c'est des affaires qui n'ont pas rapport ensemble. Que tu mets ensemble, puis tu es comme, oh my God, je pense que là, on vient mettre le doigt sur quelque chose.
C'est clair. Ouais, d'où, encore une fois, ça, c'est une autre affaire à l'école qui est vraiment triste, c'est le manque d'interdisciplinarité entre les différentes expertises, parce que les grandes découvertes, puis tout ça, ça a bien souvent toujours été quand il y avait deux domaines ou deux champs d'expertise qui se sont rencontrés, puis qui ont réussi à solutionner un problème dans une sphère qui n'était pas solutionnable dans l'autre. Fait que,
c'est la fameuse diversité, là.
Ouais.
Moi, c'est comme, oui, puis de la diversité par rapport, là. Tu sais, de la diversité du genre, moi, je brainstorm avec mes enfants tout le temps. Tout le temps. Ils sont écœurants. Avec n'importe qui, là, du monde qui sont comme pas connectés au domaine, ou tu sais, là, le monde va dire, mais j'ai pas vraiment l'expertise là-dedans, justement.
Définitivement. C'est cool, là. Définitivement. Sortir des silos, justement. De tous les types de silos. Wow! OK, on pourrait avoir encore une fois, genre, il y a plein de ramifications vers plein d'autres sujets, mais je trouvais ça intéressant de t'entendre sur partir de ce chaos-là puis créer des espaces pour le groupe de s'autoréguler, pour le groupe de genre, comprendre aussi c'est quoi ses limites, ou aller chercher des opportunités de créer quelque chose de nouveau, puis... de beaucoup plus utile. Puis je retiens aussi ce que tu nous disais sur si ton MVP, si ton prototype te fait pas honte de travailler dessus. J'ai bien aimé ça. Fait que, bon, on va naturellement mettre le lien vers ta chaîne YouTube. Est-ce que tu l'alimentes?
Pas tant, honnêtement. Je devrais, là, mais genre... C'est le problème, là, je te dirais, j'ai comme trop d'idées qui me passent par la tête, puis je suis pas capable de filtrer, tu sais, je suis pas capable de faire ce qu'on parlait tantôt, là. Je suis pas capable. Fait que là, je suis comme, telle affaire, telle affaire, puis ouais, c'est ça. Puis l'autre confession que je vais te faire, c'est que je m'auto-juge tout ce qu'il faut pas que je dis au monde de pas faire. Fait que je m'auto-juge et je m'auto-censure, et donc je me dis, ouais, mais ça fit pas trop avec la trame, tu sais, la ligne de... Mais il y en a pas de ligne, là, tu sais. Et je suis comme, mais ça me semble que ça n'a pas rapport, ça, avec juste... Puis je suis comme, mais c'est quoi dont j'essaie de faire?
Ah, deviens ton boss! Tu deviens le boss!
C'est épouvantable. C'est épouvantable, je te jure. Fait que, mais j'aimerais... Je trouve ça drôle, puis je me fais un devoir, justement, de faire ces vidéos-là. C'est cheap dans le sens... C'est pas important là, qu'il y ait des belles caméras et des belles. C'est pas ça, le message, c'est pas ça. Fait que c'est de juste y aller. Là. Fait que ça se peut qu'il y en ait d'autres éventuellement. Mais j'ai fait deux vidéos, je sais pas lequel des deux que tu as regardé, mais pour la conférence, là, j'en avais fait deux pour expliquer. J'avais trop d'affaires à dire. Fait que je l'ai fait en deux vidéos. Ouais. Puis on pourra mettre.
J'ai vu la première, puis la deuxième allait sortir, puis j'ai pas
ah, regardé c'est ça.
La deuxième, mais je vais regarder la deuxième.
La deuxième, tu vas rire, il y a encore plus de croustillants sur genre le « en dessous », là, tu sais, le « oh mon Dieu, j'ai-tu exagéré?
» Je regrette, non. OK, bon, ben, il y a ta chaîne YouTube, et où est-ce que tu préfères quand même que les gens te suivent s'ils veulent te découvrir, s'ils veulent... savoir.
Sur LinkedIn, c'est l'idéal. C'est là que je vais mettre mes pensées les plus bulles au cerveau, de type bulles au cerveau. Sinon, il y a sur mon site web, mais sur mon site web, dans le fond, c'est les articles de blog ou surtout les histoires que je vais raconter. Ça, j'aime bien ça, aller raconter des histoires. Fait que, voilà.
Bon, ben merci beaucoup, Émilie. C'était vraiment génial de t'avoir parmi nous puis d'avoir ta perspective aussi sur ça. Puis j'espère que ça va inspirer des gens à être plus chaotiques dans leur façon de réfléchir à leur business. On n'a pas trop parlé, genre, des solopreneurs, mais je pense que les gens, tu sais, si vous écoutez d'autres épisodes de podcast dans ceux que j'ai publiés il n'y a pas si longtemps, il y a beaucoup de liens avec la créativité puis le besoin, justement, de trouver des solutions alternatives parce qu'en ce moment, tu sais, on suit tout le temps les mêmes règles de comment la vie devrait être, puis ça crée plus de malheur que d'autres choses, fait que...
Ouais. C'est la même affaire partout, là, peu importe. Oui. Équipe, solopreneur, whatever, c'est pareil. Là.
Génial.
Fait que, soyons plus rebelles.
Soyons plus rebelles.
Ouais.
J'aime le terme « everyday rebel ». Je pense que j'ai quelque chose à faire avec ça, genre, ça me vient en tête beaucoup ces temps-ci. Mais bon. All right, Émilie. Je te souhaite une belle fin de journée, puis à la prochaine, j'espère.
Oui, à bientôt. Merci.
Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.